Yvonne Godeau, Les Contes du Manoir Rose ou Le Framboisier, chapitre 11 et dernier, Tracassine rencontre Juste Mesure. C'est à la fin de l'automne que Tracassine avait été redéposée par Jenny de la Médisance sur les terres du Manoir Rose. Jenny des Bois ne l'affecta d'abord à aucun emploi particulier. « Je considère que tu es en convalescence, » avait-il dit. « Reprends contact avec tes anciennes compagnes les fées, et tu retrouveras ta place sur le domaine au début de la prochaine année, après les fêtes de Noël. » Jenny des Bois revêtit Tracassine d'une robe stricte et parfaite. Elle renoua ses cheveux et perdit son aspect de pauvresse. Elle commença à faire quelques visites. Elle vit Billiette d'abord, qui l'embrassa avec effusion et lui dit « Tu es de nouveau belle, Tracassine, un peu vieillie, mais belle. La gravité triste que tu as maintenant » te donne classe et distinction, comme ces jolies ailes en plumes bleues sont ravissantes. « Ne me les envie pas, » répondit Tracassine. « Je les ai acquises au prix de déchirements d'horreur là-bas, sur la montagne pelée. » Elle dormit ce jour-là dans le peuplier de Billiette, au milieu de la peupleraie. Quand Merveilleuse, au crépuscule tombé, fit sa ronde, Tracassine rêvait allongée sur une branche. Merveilleuse s'approcha doucement et dit « Je suis heureuse de te revoir, Tracassine. » Ton chemin a été dur. Viens dormir demain près de moi. Je te parlerai du domaine. » Elle l'embrassa et s'envola. Ici et là, Tracassine errait. Elle reprenait force et santé. Et bien que la saison fût humide et froide, elle trouvait que tout au Manoir Rose était délicieux et doux. Elle faisait souvent de terribles cauchemars qui la ramenaient à la montagne pelée où Jenny des Bois l'avait exilée. Quand elle ouvrait les yeux, même si le brouillard était dense, elle était rassurée, envahie d'un bonheur profond. « Je suis revenue à ma source, j'ai retrouvé mon foyer, là est mon pays. » Elle eut quelques difficultés à s'approcher du lierre qui avait été le théâtre de sa déchéance. Mais Harpette et Merveilleuse l'y aidèrent et elle s'y plut très vite, comme on se plaît toujours à retrouver son ancien logis. De nouveau, elle regarda par la fenêtre la vie du salon. Elle aimait voir pétiller et flamber les bûches, écouter les disques que grand-mère faisait tourner, pendant que grand-père et Zizine occupaient leur soirée au grenier à composer des puzzles. Elles montaient parfois jusqu'au toit et se hasardaient à la fenêtre, contentes de leur joie quand ils avaient réussi à débrouiller de leur petit tas de carton un beau morceau de paysage. Tracassine se rétablissait, s'améliorait et élargissait son cœur. Elle s'en fut une nuit trouver Jenny des Bois. « Je suis content de toi, » lui dit celui-ci. « Tout le monde t'aime maintenant sur les terres. Tu y inspires le respect. » Et tu es un exemple important. Tes erreurs n'auront pas été inutiles. « Tu m'avais dit que je rencontrerais Juste Mesure, » dit-elle. « Ne pourrais-je prendre contact avec lui ?»« J'attendais que tu le souhaites, » répondit Jenny des Bois. « Dès demain, tes ailes te porteront vers lui. Promets-moi de faire ce voyage les yeux fermés. Tu ne les ouvriras que lorsque tu seras arrivée. Ensuite, ne parle à personne de ce que tu auras vu, entendu et du chemin que tu auras parcouru. Je ferai ce que tu exiges, » assura Tracassine. Le lendemain, quand la nuit fut venue, Tracassine, qui voletait autour du hangar au bois coupé, sentit ses quatre ailes frémir avec force et l'entraîner contre sa volonté. « Jenny des Bois tient sa promesse, » pensa-t-elle. « Je vais tenir la mienne, et advienne que pourra. » Elle ferma les yeux. Le mouvement de ses ailes était violent, irrésistible. Elle ne se souvenait pas avoir jamais fait voyage aussi vertigineux. Pourtant, c'était un voyage sans angoisse. Elle était portée par la force de la confiance. Soudain, elle s'immobilisa. Elle sentit que ses pieds reposaient sur quelque chose qui devait être une terre. « Sans doute suis-je arrivée. Je dois pouvoir ouvrir les yeux. »« Oui, ouvre-les, » répondit une voix très douce. Elle ouvrit les yeux. Elle était dans un endroit enchanté. Tout y était transparent et lumineux. On entendait des sons exquis. Des fleurs s'épanouissaient partout, immatérielles et vaporeuses. Leur parfum était leur substance même. La musique était leur parfum. Leur couleur était la musique. Tout était tout. Rien n'était séparé, séparable. Les sons, les odeurs, les tons, la lumière n'étaient qu'un même élément. Un miracle de vie, inexplicable et beau. « Où suis-je ? C'est le pays de l'âme, c'est le pays du ciel. »« C'est le pays de la vérité, » répondit la voix très douce. « Est-ce toi, Juste Mesure, qui me réponds ? Oui. » « Pourquoi es-tu invisible ? Où te caches-tu ? » « Je ne me cache pas. Je suis comme la vérité. si simple que je ne peux être vue. Je ne connaîtrai donc jamais la vérité, si, quand tu seras devenue aussi simple qu'elle. » Tout s'arrêta pour Tracassine. Il n'y avait plus l'ombre d'un mot dans sa tête. Le silence était total, plein, magnifiquement calme. « Ainsi tu approches de la vérité, » reprit la voix. Tracassine fut prise de vertige. Les mots se ruèrent de nouveau à l'assaut de son esprit. « Je souffre tant encore. Comment me débarrasserai-je de la souffrance ?»« Quand tu ne t'y complairas plus et l'auras laissé sortir de toi, je vais te faire un grand cadeau. Laisse passer Noël. Le jour de l'an, tu auras ton arbre. Sous cet arbre, je déposerai un lit. Toi seul pourras le voir. Quand tu souffriras, tu t'y allongeras. Je te promets qu'il se passera pour toi de bonnes choses, mais quoi qu'il arrive, garde-toi de la peur. Bien. Sur tout cela, tu resteras silencieuse. Et maintenant, ferme les yeux, génie des bois t'attend. » Tracassine sentit frémir ses deux paires d'ailes. Elle ferma promptement les yeux et quitta le pays de vérité. Quand elle se retrouva au manoir, une grande agitation y régnait. On venait d'apporter un sapin. Il était grand et planté dans une énorme caisse de bois. Grand-mère, grand-père, Lucien et Zizine lui cherchaient sa place sur la terrasse de briques roses, devant la façade de la maison tournée vers la plaine. « Il est superbe cet arbre !» disait grand-père. « Il enrichira le parc aux grands arbres au début de l'année prochaine !» Tracassine pensa. « Tiens, peut-être est-ce lui que Génie des Bois me destine ?» Elle s'en fut trouver celui-ci qui lui dit. « Ton voyage chez Juste Mesure s'est admirablement passé. Ce sapin est pour toi, en effet. On l'a déterré de la forêt vosgienne, et sa fée a été si effrayée par les bûcherons qu'elle a fui avec quelques autres dont les arbres subissaient le même sort. Elles se sont réfugiées dans des petits surgeons qu'elles vont élever maintenant avec tendresse. Dois-je aller y vivre tout de suite ? Non, attends un peu. On va le décorer de guirlandes, de cheveux d'anges, d'ampoules électriques, de boules de toutes sortes. Non seulement ses racines ont subi des dommages, mais ses branches souffriront de la chaleur de tous ces petits lumignons accrochés. Ne partage pas ce sort-là. Va lui parler, faire connaissance, l'encourager, le consoler, mais attends pour y prendre place que je t'en donne le signal. » Tracassine était devenue parfaitement docile et fit comme Génie des Bois le souhaitait, bien qu'il lui tardât d'avoir un lieu où s'installer. Noël arriva. Les préparatifs furent extraordinaires. On grimpa sur une grande échelle pour faire du sapin un arbre qui semblait miraculeux. Partout il brillait, rutilait, scintillait. C'était Zizine qui était chargée de la besogne, que grand-mère surveillait et dirigeait avec beaucoup de soin. « Un peu plus à gauche, les cheveux d'ange. Un peu plus haut, la grosse boule rouge. Attention, Zizine. Soyez prudente, ne tombez pas. Tout va bien, madame, ce que ça va être beau. » Quand on eut tout accroché, Lucien arriva avec des rallonges électriques. On fit un essai pour juger de l'effet que l'arbre produisait. C'était vraiment magnifique. « Nous recommencerons à éclairer ce soir, n'est-ce pas, madame ?» dit Zizine. « Absolument, » répondit grand-mère. « Pendant les fêtes, nous laisserons l'arbre illuminé dès que la nuit tombera. » Le pauvre sapin entendit cela et s'inquiétait. « Ça brûle, et quand on éteint, c'est tout froid. Quel sort est le mien ?» C'est alors, pendant cette période qui dura un peu plus de 10 jours, que Tracassine fit connaissance avec son arbre et commença à compenser le chagrin que cette belle parure qu'il n'avait pas souhaitée lui apportait. Ce Noël fut admirable. Toutes les fées affluèrent pour y participer, et Tracassine fut un peu la reine de la fête. Ses compagnes la félicitaient, l'encourageaient. Merveilleuse lui dit un soir, « Ne t'inquiète pas, Tracassine, je suis sûre que ce sapin supportera l'épreuve et que tu sauras renverser la situation, comme tu as su le faire pour toi. » Ces mots apaisants faisaient l'effet d'un baume, mais Tracassine savait qu'en elle s'agitaient encore de grandes douleurs, tout à fait incompréhensibles. Elle attendait, avec une certaine angoisse mêlée d'impatience, que la promesse de Juste Mesure fût tenue. « Je voudrais être sur ce lit pour y déposer ma souffrance. » Le 3 janvier, étant cette année-là un lundi, ce jour fut choisi pour sortir le sapin de son bac de bois. Lucien avait déjà fait dans le parc aux grands arbres un trou carré et profond que la pluie et le givre avaient eu le temps d'inonder et d'assainir. On coucha le sapin sur le flanc et on tira le bac avec 1000 difficultés jusqu'au bout du pré. Derrière l'hélice, les chevaux le regardaient passer avec compassion. « Pauvre malheureux !» dit une jument, « pourvu qu'il en sorte. Chaud et froid, Maintenant, il perd ses épines et ses racines doivent être en piteux état. Tracassine, qui partageait cette opinion, sentit son cœur défaillir. « Ne t'inquiète pas, » disait-elle pourtant au sapin. « Ne pense à rien, laisse-toi faire. Dès ce soir, quand tu seras remis en terre, je m'installerai en toi et je te promets que tu seras le plus bel arbre du parc aux grands arbres. » Il était mourant et hébété. En effet, il ne pensait à rien. Il n'était plus qu'une loque d'arbre qui se laissait traîner. On le bascula dans son trou après avoir éventré son bac de bois. Grand-père et Lucien, aidés de deux hommes du pays, firent le travail. Ils furent efficaces, énergiques. On tassa la terre, on tira le tronc vers le ciel comme l'on dresse un mât sur un pont de navire. On mit des cordes, un tuteur de chaque côté. On amarra du fil de fer qu'on ficha en terre, attaché à des coins de bois. Ce fut un travail de spécialiste. L'arbre dodelinait, perdait encore des épines. L'écorce arrachée par endroits faisait un bruit déchirant et montrait un tronc écorché comme une plaie. La nuit vint. L'arbre était planté. Il faisait un froid glacial. Tracassine, assise sur la terre fraîchement tassée, parlait sans cesse pour consoler son sapin. Génie des bois apparut et dit « Voilà une besogne bien faite. Entre dans ton arbre, Tracassine, et ne t'éloigne de lui sous aucun prétexte. Il est sous ta garde. Il te faut maintenant le sauver. » Tracassine prit instantanément sa place. Tout était en révolution dans ce grand corps de bois, des racines tronquées, aux épines grillées, aux branches et à l'écorce mutilées par les voyages. Il y avait à faire pour des mois. « Je saurais te réparer, » disait Tracassine. Cependant, elle pensait à elle et secrètement soupirait. « Moi aussi, j'ai besoin de réparation. » Elle pencha la tête entre deux branches et vit que le lit promis par juste mesure était là. « Je vais me jeter dessus. Je verrai bien ce qui arrivera. » Elle se laissa glisser le long du tronc et s'allongea. C'était un lit sans consistance, une couche transparente qui ne ressemblait pas du tout au lit des humains. Elle prit une longue respiration dans l'air glacé de la nuit de janvier, et quand elle rejeta son souffle, il se produisit quelque chose d'inimaginable. Ce ne fut pas une expiration qui sortit d'elle, mais une meute de loups. Ceux-ci se répandirent dans le parc aux grands arbres, où ils poussèrent de lugubres cris vers la lune. Il y en avait d'énormes, des moyens, des petits, mais tous avaient des crocs acérés et des yeux cruels. Ils hurlaient avec férocité et se ruaient comme des forcenés en tous sens, se bousculaient, s'entre-dévoraient. Tracassine regardait sans bouger sortir d'elle ses douleurs anciennes et ne comprenait pas le sens de cette cérémonie étrange. « Qu'a fait la juste mesure ? Le pays va maintenant être infesté de loups !» Toutes les fées furent en un instant sur le pied de guerre. Elles volaient comme des folles vers la peupleraie, où elles se groupèrent autour de Merveilleuse. D'une seule voix, elles appelèrent Génie des bois qui accourut. Tracassine, qui avait reçu l'ordre de ne pas quitter son arbre, était immobile, atterrée. Elle entendit la voix douce de juste mesure dire « Ne t'occupe pas de ces choses ». Les loups couraient toujours en hurlant et suivant maintenant le sillage du vol des fées. Ils furent bientôt eux aussi dans la peupleraie. Juste mesure, invisible, les entraîna vers la plaine. Il lança entre eux et les peupliers un immense filet de lumière vers lequel ils revinrent tous se jeter. « À toi d'intervenir à présent, » dit juste mesure à Génie des bois, « que les fées fassent leur office. » Génie des bois couvrit d'une ample et belle sonorité le hurlement des bêtes. Une musique profonde enveloppa bientôt tout le domaine. « À vous, mes filles !» chantait Génie des bois. « Coupez ces démons, réduisez-les à néant, taillez-les, hachez-les avec le filet de lumière !» Les fées secouaient les mailles, les avançaient, les reculaient, les montaient, les descendaient. Les loups, attirés comme des poissons, se jetaient sur les petites cisailles brillantes qui mettaient en miettes peu à peu leur horde maudite. Les hurlements s'atténuèrent. Génie des bois chantait toujours. Son chant s'étendait sur la campagne. Il n'y eut bientôt que cette harmonie pour remplir le silence de la nuit. Les loups n'étaient plus que petits tas hachés menus, comme le persil au fond du verre quand Zizine le prépare pour saupoudrer les salades. Tracassine, sur son lit, laissait sortir son souffle un peu plus calmement. Seule maintenant s'exhalait d'elle une buée chaude dans l'atmosphère glacée de l'hiver. Elle se sentait légère, jeune, neuve, sans angoisse. « Comme c'est simple !»« Oui, c'est simple !» dit juste mesure. Il était face à elle et lui souriait. « J'ai donc devant moi la vérité, » dit Tracassine émerveillée. « « N'oublie pas ta promesse, répondit Juste Mesure. Ne parle de cela à personne. Peu de fées voient la vérité, mais peu de fées aussi affrontent le sort qui a été le tien. Garde le silence. Il est facile de se taire quand on connaît la paix. » Juste Mesure s'évapora, monta très haut, jusqu'au ciel, où il sembla s'immobiliser pour y briller au milieu des étoiles. Tracassine connut enfin un calme bonheur, bénéfice de tous ses longs tourments. Fin. Autre publication, Méfiez-vous de vos rêves, aux éditions Bordas. Les contes du Manoir Rose ont été lus par Pauline Pucciano pour Littérature Audio.